cours de pédologie générale, un SEM Moussereau département production animale, santé animale et technologie des productions animales, niveau 1. Chargé de cours, Monsieur Ousmane Youssouf Mahama, année académique 2025 à 2026. Introduction. Bienvenue dans ce cours de pédologie générale de l'Institut National Supérieur d'Élevage de Moussereau. La pédologie, du grec pédon qui signifie sol et logo qui signifie science, est la science qui étudie la formation, la genèse, les propriétés et la classification des sols. Elle trouve de nombreuses applications dans les domaines de l'agronomie et de l'écologie. La pédologie est une science relativement récente. Elle n'a acquis une véritable expansion qu'en 1877, sous l'impulsion du Danois Müller et surtout du géologue russe Vassili Dokoutchaev. Ce dernier avait remarqué que le sol d'une région donnée présente des caractères identiques quelle que soit la roche sous-jacente, et qu'une même roche sous des climats différents ne donne pas les mêmes sols. Le sol est une couche d'épaisseur variable, de quelques centimètres à quelques mètres, qui recouvre la plupart du temps les roches. C'est la couche la plus externe de la croûte terrestre, résultant de l'interaction entre la lithosphère, l'atmosphère, l'hydrosphère et la biosphère. L'ensemble de tous les sols qui prennent naissance à la surface de la lithosphère forme ce que l'on appelle la pédosphère. Le sol n'est pas un ensemble statique. C'est un complexe dynamique, vivant, qui évolue dans le temps. Il abrite de très nombreux organismes de tailles très diverses et constitue un réservoir unique de biodiversité microbienne, animale et végétale. Il résulte de la transformation de la couche superficielle de la roche mère, enrichie en matière organique par les processus vivants de pédogenèse. Chapitre 1er. Introduction et généralité. L'étude du sol peut être abordée de plusieurs manières complémentaires. L'approche agronomique envisage le sol comme le milieu naturel au sein duquel croissent les plantes cultivées. L'agronome s'intéresse à la gestion de ce capital, à l'amélioration de sa fertilité et aux mesures conservatoires. On considère qu'un bon sol agricole est constitué de 25% d'eau, 25% d'air, 45% de matière minérale et 5% de matière organique. L'approche écologique vise à replacer le sol dans un contexte d'écosystème. L'objectif principal est l'étude des relations réciproques entre le sol, la couverture végétale et les facteurs climatiques. L'approche environnementale met l'accent sur le rôle de filtre que joue le sol à l'interface entre l'atmosphère, l'hydrosphère et la lithosphère. Elle étudie notamment le comportement du sol vis-à-vis des différents types de pollution d'origine humaine, comme les métaux lourds et les hydrocarbures. L'approche de l'aménagement du territoire distingue plusieurs catégories d'occupation du sol. Les sols agricoles, les sols boisés, les sols bâtis et les autres sols. Pour un ingénieur civil, le sol est un support pour les routes et les bâtiments. Pour l'hydrologue, c'est un manteau vivant permettant le cycle de l'eau. L'approche pédologique proprement dite considère le sol comme la résultante de l'action des facteurs du milieu sur un matériau parent géologique. Le sol constitue en lui-même un objet d'étude, et on cherche à analyser ses propriétés en relation avec les processus qui ont déterminé son développement. Fonction des sols. Un sol est considéré comme sain lorsqu'il remplit simultanément plusieurs fonctions essentielles. Il héberge un écosystème complexe, fortement lié aux écosystèmes terrestres et aquatiques. Il produit des récoltes. Il stocke le carbone et l'azote de l'atmosphère. Il retient les eaux de pluie et de ruissellement, ce qui permet de lutter contre l'érosion et limite les risques de salinisation. Il joue également un rôle important dans la fixation, la dispersion et la biodégradation des polluants. Enfin, le sol est un acteur clé des cycles biogéochimiques du carbone, de l'azote, du potassium, du calcium, du phosphore et des métaux. Par la richesse de ses fonctions et la diversité des formes de vie qu'il abrite, le sol est considéré comme un patrimoine essentiel dont la conservation est le garant de la survie de l'humanité. Naissance, développement et disparition d'un sol. Le sol naît, c'est le stade de genèse, ses propriétés reflètent alors fortement la roche mère. Il se développe jusqu'à atteindre un stade de maturité où il est en équilibre avec les conditions ambiantes. Si les conditions du milieu changent, le sol évolue à nouveau pour se réadapter. Ultérieurement, le sol peut disparaître par érosion ou être enfoui par des apports extérieurs tels que des coulées volcaniques. En résumé, le sol est un matériau essentiellement vivant et dynamique qui naît, évolue, atteint la maturité, et peut aussi disparaître ou se modifier pour se réadapter au cours du temps. Chapitre 2. Altération des roches, des minéraux et facteurs du sol. L'altération est définie comme l'ensemble des processus complexes aboutissant à des changements quantitatifs et qualitatifs des roches et des minéraux qui les composent, sous l'effet de l'atmosphère et de la biosphère. On distingue trois familles de processus d'altération. les processus physiques provoquent une fragmentation mécanique de la roche sans modifier la composition des minéraux. Les processus chimiques entraînent une modification de la composition chimique ou une dissolution des minéraux. Ils nécessitent la présence d'eau et sont les plus importants. Les processus biologiques conduisent à une fragmentation ou une détérioration chimique des roches par l'action des organismes vivants, végétaux, animaux et bactéries. Dans la nature, ces trois processus agissent rarement seuls. Par exemple, de petites fractures créées par un processus physique permettent l'infiltration d'eau, qui favorise à son tour l'altération chimique. Facteur de formation du sol. Un sol résulte de l'altération superficielle d'une roche mère et de son enrichissement en matière organique issue des êtres vivants. Trois facteurs principaux entrent en jeu. La roche mère, dont les propriétés physiques et la composition chimique influencent directement la nature et la rapidité de l'évolution du sol. Les végétaux, qui fournissent l'essentiel de la matière organique. Le climat, qui conditionne les deux facteurs précédents par la température, pour l'altération de la roche, et par les précipitations, pour les phénomènes de migration dans le sol. La formation d'un sol peut se décomposer en trois phases qui se chevauchent dans le temps. D'abord l'altération, c'est-à-dire la décomposition de la roche mère. Ensuite l'humification, qui correspond à l'introduction de la matière organique sous forme d'humus. Enfin la différenciation, qui correspond à la migration et à l'accumulation de certains éléments dans des couches distinctes appelées horizons. Genèse et facteurs pédogénétiques. La pédogenèse, du grec pédon, sol, et génésis, naissance, est l'ensemble des processus physiques, chimiques et biologiques qui, en interaction, aboutissent à la formation, la transformation ou la différenciation du sol. Les facteurs pédogénétiques sont au nombre de 5. La nature de la roche mère, les organismes animaux et végétaux, le climat, le relief et le temps. À ceci s'ajoute l'activité économique de l'homme. Tous ces facteurs ont la même valeur et aucun ne peut remplacer les autres. La roche mère agit par sa perméabilité, une roche filtrante favorisant des migrations plus importantes, et par sa composition chimique, une roche riche en base freinant les processus migratoires. Le climat joue un rôle majeur dans l'accumulation d'humus. L'intensité de la décomposition et de la minéralisation des résidus organiques augmente avec la température. Sous les tropiques, plus de 20% des précipitations tombent sous forme d'averses, ce qui a une forte influence sur l'érosion. Les facteurs biologiques comprennent l'influence des plantes, des micro-organismes, des insectes, des vers de terre et des animaux fouisseurs sur la pédogenèse. Tous les organismes du sol respirent et produisent du dioxyde de carbone. Le relief influe sur la pédogenèse en conditionnant la répartition de la chaleur, de la lumière et de l'humidité. La raideur des pentes favorise l'érosion et la mise à nu des roches sous-jacentes, produisant des jeunes sols tropicaux d'une fertilité exceptionnelle. L'activité économique humaine renforce souvent certains processus pédogénétiques. En Afrique tropicale, les feux de brousse annuels transforment en fumée et en cendres d'énormes biomasses végétales. Le sol, non protégé par la végétation, subit alors une érosion intense qui constitue l'un des fléaux majeurs de l'Afrique tropicale. Les étapes de la formation du sol. On peut distinguer trois grandes étapes. La première est l'altération de la roche mère, qui résulte des processus physiques de fragmentation et des processus chimiques de dissolution et d'hydrolyse des minéraux. La deuxième est l'incorporation de la matière organique, par minéralisation et humification. La troisième est la différenciation des horizons, sous l'action des eaux d'infiltration qui entraînent et accumulent certains éléments dans des couches distinctes. Les horizons pédologiques. Les horizons pédologiques sont les couches superposées du sol, homogènes et plus ou moins parallèles à la surface. Ils diffèrent les uns des autres par leur couleur, leur texture et l'abondance des éléments qui les composent. Leur nombre varie en fonction du degré d'évolution du sol. Les horizons sont désignés par des lettres selon une nomenclature internationale. L'horizon O contient la litière et les matières organiques en cours de transformation. L'horizon A est un horizon mixte, composé d'éléments minéraux et d'humus, de couleur foncée. L'horizon E est un horizon lessivé, appauvri par les eaux d'infiltration. L'horizon B est un horizon d'accumulation, riche en argile et en hydroxyde. L'horizon S est un horizon d'altération des minéraux. L'horizon C correspond à la roche mère plus ou moins altérée. La lettre R désigne la roche mère non altérée. Le profil pédologique est l'ensemble des horizons d'un sol donné. L'étude d'un sol repose sur l'identification et la description de ses horizons. La couverture pédologique est l'ensemble des sols qui recouvrent le globe terrestre, en continuelle évolution. Chapitre 3. Les constituants du sol. Le sol est un mélange de constituants minéraux, organiques, d'air, d'eau et d'organismes vivants. La fraction minérale est constituée en majeure partie de fragments de roches et de minéraux plus ou moins transformés par l'altération. On distingue les minéraux primaires, hérités des roches magmatiques, qui sont plus ou moins instables dans les couvertures pédologiques, et les minéraux secondaires, essentiellement des phyllosilicates, des oxydroxydes de fer et d'aluminium, des carbonates et des sulfates. La fraction organique du sol est la matière carbonée provenant de la décomposition et du métabolisme des êtres vivants végétaux, animaux et microbiens. Elle comprend la matière organique vivante, les débris végétaux et animaux frais, les composés organiques en cours de décomposition, et les composés organiques stabilisés appelés humus. L'humus est le produit final de la dégradation de la matière organique. Il est généralement associé au milieu argileux et forme le complexe argilo-humique, qui joue un rôle essentiel dans la structure du sol et ses propriétés mécaniques, physiques et chimiques. La capacité d'échange cationique du sol, notée CEC, est proportionnelle à la quantité de charge électrique portée par ce complexe. Plus la CEC est élevée, plus le sol peut retenir les éléments nutritifs mis à disposition des plantes. La teneur en matière organique du sol est extrêmement variable. Moins de 0,1% dans les sols de régions arides, jusqu'à 100% dans les sols hydromorphes tourbeux. Les horizons cultivables de régions tempérées contiennent en moyenne 2% de matière organique. Chapitre 4. Les propriétés du sol. Les propriétés du sol sont le reflet de l'interaction entre ses constituants et le temps d'évolution. Elles sont physiques, chimiques et biologiques. La texture est définie par la taille, la proportion et la nature des constituants du sol, notamment la teneur en sable, en limon, en argile et en humus. Sur le terrain, on apprécie la texture par le test de plasticité. On prélève une petite motte de terre que l'on pétrit entre les doigts. Plus le sol est plastique, plus sa texture est argileuse. La texture conditionne la porosité et le régime hydrique du sol. Un sol à dominante sableuse est filtrant. L'eau y circule facilement mais le pouvoir de rétention est limité. Un sol plus argileux forme des agrégats qui permettent à la fois de retenir l'eau et de laisser circuler l'air. La structure est le mode d'assemblage des différents constituants. Elle dépend directement de la texture et peut évoluer dans le temps. On distingue 5 types principaux de structures. La structure lithique, héritée de la roche, la structure massive, la structure particulière, la structure grumeleuse, et la structure grenue, qui est la plus stable grâce à l'action stabilisante de la matière organique sur les argiles. La stabilité de la structure conditionne la résistance du sol à l'érosion. La porosité est l'ensemble des vides du sol. Elle détermine la proportion du volume total occupé par l'air et l'eau. On distingue la macroporosité, la mésoporosité et la microporosité selon la taille des vides. L'eau du sol peut se trouver sous trois formes. L'eau de gravité, qui s'écoule librement dans les pores sous l'effet de la pesanteur. L'eau utilisable par les plantes, retenue en film autour des particules et facilement absorbée par les racines. Et l'eau inutilisable par les plantes, retenue trop énergiquement autour des particules pour être absorbée. L'atmosphère du sol est constituée des gaz contenus dans les cavités du sol, azote, oxygène, dioxyde de carbone et méthane. La composition de cet air diffère de l'atmosphère externe car les organismes du sol le modifient en respirant. La diffusion de l'air est freinée en proportion de la profondeur et du remplissage des pores par l'eau. La température du sol dépend du bilan radiatif solaire. Seulement un tiers de l'énergie solaire pénètre effectivement dans le sol. La quantité de chaleur reçue varie selon l'humidité de l'air, la couverture végétale, la couleur du sol, son humidité et son exposition. Un sol sombre se réchauffe plus rapidement qu'un sol clair. Un sol sec se réchauffe plus rapidement qu'un sol humide. Le pédoclimat, c'est-à-dire le climat interne du sol, joue un rôle important sur l'altération, l'humification, la distribution des plantes et la pédogenèse. Conclusion. Ce cours de pédologie générale vous a présenté les bases de la science des sols. Nous avons vu comment le sol se forme à partir de la roche mère sous l'action combinée des facteurs climatiques, biologiques et topographiques. Nous avons étudié ses constituants minéraux et organiques, ses horizons caractéristiques, et ses propriétés physiques essentielles que sont la texture, la structure, l'eau, l'air et la température. La connaissance de ces bases est indispensable pour comprendre la fertilité des sols, leur gestion agronomique et leur conservation, enjeu particulièrement important dans le contexte sahélien du Tchad. Fin du cours de pédologie générale. Institut national supérieur d'élevage de Moussoro, année académique 2025 à 2026.